Donc, on accueille maintenant Hélène Breda et Déborah Gay. Hélène est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Paris 13. Elle travaille aussi au laboratoire LAPSIC et elle est chercheuse associée à l'IRCAV. Donc, c'est une universitaire et une chercheuse qui travaille beaucoup sur les contenus des œuvres, mais aussi sur les études de réception. Donc ça s'inscrit dans cet après-midi qui, et ça va être le cas là, de cette présentation, s'intéresse à la façon dont les audiences reçoivent les œuvres. Et ces recherches s'inscrivent aussi sur les relations entre médiaculture et identité culturelle. On en a déjà eu un aperçu avec la présentation de Jennifer Oudiard juste aujourd'hui, ou celle de Nick Davis avec Andrew Hahn aux États-Unis ce matin. Donc, elle travaille dans ce qu'on appelle les cultural studies, les études culturelles, qui questionnent les manières dont la fiction et les médias travaillent les imaginaires collectifs et sont en retour influencés par la société dont ils émanent, cette négociation justement dont on parlait à l'instant. Elle a étudié en outre la question des représentations LGBT dans les séries Hannibal, Sense8 et Glee. Déborah Gay est doctorante en troisième année à Toulouse de Jean Jaurès en sciences de l'information et de la communication au laboratoire LERAS. Elle travaille sous la direction de Marlène Coulon-Gully sur un sujet extrêmement moderne, contemporain et tendance, le genre de l'innovation, la production de la différence, le cas de la websérie Les Engagés, qui suit un fanatique de websérie. Je trouve que c'est un sujet extrêmement intéressant et elle s'intéresse donc aux questions de production et de représentation du genre et des sexualités dans les fictions sérielles. Elle a publié un article intitulé « Hannibal, une adaptation queer » par Brian Fuller dans l'ouvrage « Séries télévisées, hybridation, recyclage, croissement sémiotique » sous la direction d'Emmanuel Levagueresse et Sébastien Hubier. Et comme Audrey Hensler tout à l'heure, c'est Shiva, puisqu'elle est en même temps ATER, au département art et communication, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
De Toulouse 2, Jean Jaurès. Donc on va leur laisser la parole et je crois que c'est Déborah qui commence.
Tout à fait. Et bon, bah, merci en tout cas d'être si nombreux à vendredi après-midi. C'est très agréable. Et donc on va vous présenter une série qui s'appelle donc Hannibal. Et notamment cette communication s'appelle Hannibal et le queer comme connivence, création d'un récit circulaire du showrunner au Hannibal. En fait, pendant donc trois saisons, le showrunner Brian Fuller a tourné cette série, diffusée à la télévision américaine par un network, qui est le network NBC. Si cette série a vraiment commencé comme un procédural, comme l'a expliqué Audrey, c'est-à-dire plus ou moins une enquête par épisode, elle a évolué très vite et le format a changé pour aller vers une série plus feuilletonnante dans la deuxième moitié de la deuxième saison. Hannibal, en fait, va vraiment s'ancrer sur la relation de deux personnages, deux hommes, qui sont Hannibal Lecter, psychiatre et en même temps tueur en série cannibale, incarné par Mads Mikkelsen, et son patient, Will Graham, Hugh Dancy, qui n'est pas seulement son patient, mais qui est aussi un agent du FBI qui essaye de rechercher ce fameux tueur cannibale qui sévit dans la région. Et en fait, dans le cadre de ce colloque, on va s'intéresser à deux points. Tout d'abord, dans une première partie, je vais expliquer en quoi c'est un récit queer. Puis je laisserai en fait la parole à ma collègue, donc Hélène Breda, qui va vraiment s'intéresser à comment ce message est reçu, perçu, relancé par les publics. On va voir aussi, dans le cadre de ma communication, quelques exemples, mais c'est vraiment la partie d'Hélène qui sera plus axée là-dessus. En fait, Hannibal, donc, pour ceux qui connaissent, c'est à la base une série de livres. Ah oui, pardon, première partie, This is my design, donc justement en quoi c'est un projet queer revendiqué par un showrunner. Donc Hannibal, c'est à la base vraiment cette série de livres de Thomas Harris, qui a déjà été adapté au cinéma avec, cette fois dans le rôle d'Hannibal Lecter, le très bon Anthony Hopkins. Et en fait, donc, Brian Fuller décide vraiment de réadapter, de se réapproprier ce récit en se basant sur une époque antérieure où ce célèbre cannibale, Hannibal Lecter, était encore en liberté. Et son patient n'est donc que Will Graham. En fait, Brian Fuller va expliquer dans une interview que j'ai effectuée pour un journal donc, qui s'appelait le Daily Mars, au moment de lancement de la saison 3, ça aurait été bien si on avait 5, ce qu'il voulait faire en retravaillant profondément cette diégèse. Et je le cite et je le traduis. « Une des choses qui me plaisait le plus dans le fait de raconter cette histoire en tant que gay est d'explorer la nature des amitiés masculines hétérosexuelles. Parce que quand je vois les séries explorant ces amitiés, ce n'est pas quelque chose qui me fait écho. je voulais rendre compte de l'intimité que peuvent expérimenter deux hommes, qui n'est pas celle dont nous avons l'habitude. Dans la culture américaine, les hétérosexuels tapent leurs amis dans le dos, les traitent de trous du cul, et créent une vraie barrière à toute intimité, tout en projetant une sensation d'amitié. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas avoir deux hommes hétérosexuels qui sont réellement respectueux de leur amitié et la prennent au sérieux, et qu'ils reconnaissent n'avoir jamais expérimenté ce sentiment avec d'autres hommes. Will Graham est un personnage hétérosexuel, mais dans mon esprit, Hannibal Lecter est le diable et il est donc pansexuel. L'idée de cette amitié ayant un niveau d'intimité qui n'implique pas de sexualité, mais en possède certains éléments, l'idée de deux hommes hétéros qui se regardent dans les yeux en disant « J'estime énormément notre amitié, tu es incroyable à mes yeux, tu me vois, je te vois, et c'est extraordinaire d'être compris » est au cœur de leur relation, même si cette compréhension est terrifiante. En fait, vraiment, de ce point de vue, c'est une œuvre qui déroge à une norme hétérosexuelle qui est vraiment dominante dans la production cinématographique, qui est axée, elle, sur la relation entre Hannibal Lecter et Clarice Starling. Pour ceux qui ont vu les films, il y a vraiment ce côté séduction, répulsion, mais entre un homme et une femme. Donc, quand Fuller déclare vouloir explorer la nature des amitiés masculines hétérosexuelles, en tant que gay, se met un nouveau point de vue sur l'histoire. Et vu qu'il a vraiment beaucoup de pouvoir sur l'ensemble de la production sérielle, ce qui est vraiment différent quand on est scénariste en France, là c'est un showrunner, directeur artistique, il a vraiment la main sur beaucoup plus de choses, il va se développer un nouveau regard qui va être visible par le spectateur et qu'on appelle le gay gaze. En fait, pour revenir rapidement sur la notion de gaze, donc de regard, Laura Mulvey, dans un article daté de 1975 et intitulé « Plaisir visuel et cinéma narratif », met en avant le fait qu'il existe un regard masculin à l'écran sur le corps des femmes. Alors ce regard est triple, celui d'abord du personnage principal qui est toujours masculin, sur le corps d'une femme, qui est souvent la personne dont il est amoureux ou qu'il essaie de séduire, etc. Ensuite, on a le regard de la caméra sur le corps de la femme, qui est souvent démembré d'ailleurs, vu par petits morceaux à l'écran. Et enfin, on a celle du regard du spectateur sur les femmes à l'écran, le spectateur s'identifiant au héros et donc au personnage masculin. En fait, Laura Mulvey a depuis longtemps nuancé sa pensée, mais cette notion de regard est encore facilement utilisable pour comprendre la lecture qu'on peut se faire d'un corps à l'écran. Ici, on voit que le corps vu comme passif, soumis au regard, c'est le corps d'un homme et pas d'une femme. Alors, je vous renvoie un peu à un article que Hélène Breda donc, a écrit dans Genre en série qui s'appelle « Délectable lecteur ». On peut voir vraiment cette inversion du regard. Les corps des personnages masculins principaux sont souvent nus, souvent très suants, filmés de façon fragmentaire. Alors, par exemple, dans la saison 1, le héros, Will Graham, tombe malade, très malade, et en fait... quasiment un épisode sur deux, voire tous les épisodes, on le voit transpirant dans son lit, t-shirt gris collant à la peau et en petit short. Ce qui est quand même assez rare. Les corps réifiés sont vraiment offerts au regard du spectateur. Et ce regard, c'est aussi celui de Brian Fuller, qui utilise l'histoire, le cadrage, les mouvements de caméra, en plus des dialogues, pour poser cette fameuse question sur son écran, celle dont on a parlé plus haut et qu'on peut un peu résumer ainsi. À quel moment une amitié forte devient de l'amour ? Et peut-il avoir de l'amour sans sexualité ? Il est assez intéressant d'ailleurs de noter que la seule scène intime et sexuelle qui va exister pour Will Graham et Hannibal Lecter est une scène où ils vont partager le même espace à l'écran. En fait, dans la diégèse, alors on ne voit pas grand-chose, mais à droite, vous avez Will, à gauche, Hannibal, et au milieu, une femme. Et en fait, Will Graham, dans cette histoire, couche avec une femme qui s'appelle Margot Verger, qui est lesbienne, et qui veut un enfant, et donc le séduit pour coucher avec lui. Et en même temps, toujours dans la diégèse, de son côté, Hannibal Lecter couche avec Alana Bloom. C'est une ancienne amie de Will, et il l'utilise un peu comme alibi pour faire croire à son innocence, c'est-à-dire tant qu'il couche avec elle, tant que c'est son compagnon, il est forcément innocent. En gros. Donc tous deux sont vraiment dans des relations complètement asymétriques et inégales et finissent en fait dans un fantasme total par partager l'écran relié par Alana. Merci. Concernant la véritable identité d'Hannibal Lecter, en fait, nous, en tant que public, on sait dès le début la vérité. On sait qu'il est le Chesapeake Ripper. Mais Hannibal Lecter, qui est donc un tueur cannibale, passe sous les radars. Il est un psychiatre connu, il traîne avec toute la haute société de Baltimore, il est dans une performance de la normalité. Et en cela, on peut vraiment considérer que sa vraie personnalité est cachée dans le placard. Alors, F. Kozowski Sedgwick, dans Épistémologie du placard, que d'ailleurs Anne Crémieux a cité ce matin, explique, par exemple, « Être au placard est en soi une performance inaugurée en tant que telle par cet acte de parole qui est le silence. Non un silence particulier, mais un silence qui accroît la particularité par à-coup en relation avec le discours qui l'entoure et le constitue de manière différentielle. » Alors, en fait, ce qu'explique Sedgwick ici, c'est qu'il y a des silences et des coming out. Le coming out ne se fait pas en une fois. Il faut faire attention à qui on s'adresse à plusieurs personnes, on fait plusieurs coming out. Et en fait, au début de la série, seul le spectateur est au courant de la vraie nature d'Hannibal. Les autres personnages l'apprennent petit à petit. Hannibal se cache réellement à travers un tas de jeux de mots parfois très très lourds, issus vraiment de ce registre très comique. Et là, je vais vous montrer une petite scène. En fait, il invite Jack Crawford, qui est le personnage noir à l'écran, qui vient manger chez lui et lui demande « Qu'est-ce que je suis en train de manger ?» Et Hannibal lui répond « Du lapin ». À ce moment-là, Jack répond « Ah ben, il aurait dû quand même sauter vachement plus vite ». Hannibal rigole en disant « Oui, il aurait dû ». Il aurait dû sauter plus vite. On se rend compte qu'on voit dans son esprit une grande musique, on voit un jeune homme courir, tomber dans les herbes et Hannibal qui est en train de cuisiner. Et après, ils mettent la nourriture à la bouche en étant super contents, en disant « Oh là là, qu'est-ce que c'est bon !» Donc vraiment, il y a toute une série de jeux de mots comme ça où on va voir ce qui se passe dans l'esprit d'Hannibal et ce qui se passe à l'écran. Et ces jeux de mots participent à la mise en place d'un sous-texte, de sous-entendu qui joue avec le regard du spectateur. F. Kozowski Sedgwick ajoute plus tard, toujours dans le même ouvrage, « Le terme secret de Polichinelle désigne ici un type de secret particulier, un secret homosexuel. » Et j'emploie cette expression pour décrire le phénomène du « placard de verre », les remous d'un savoir-pouvoir totalisant et violent qui circule autour des identités de la plupart des hommes gays, à l'exception de ceux qui le sont ouvertement. Ce que Sedgwick vraiment explique dans cet ouvrage, c'est que le secret de Polichinelle se fait au détriment d'une personne homosexuelle. En fait, les gens savent qu'il est gay, et lui ne peut pas le dire ouvertement, et donc en profite pour le martyriser, en gros. En fait, comme le montre Brian Fuller, c'est l'inverse. La découverte de la véritable identité d'Hannibal Lecter, donc celle de ce tueur en série cannibale, le Chesapeake Reaper, provoque la mise en danger d'autrui. En fait, lorsque Jack Crawford, qu'on n'a pas vu, découvre enfin qui est Lecter et ce qu'il a mangé depuis une saison et demie dans son assiette, il va devoir lui cacher son jeu. Il va devoir cacher le fait qu'il soit au courant pour trouver des preuves et mener à son arrestation, tout en étant en danger constant de mort. Lecter tue, égorge tous ceux qui tentent de l'arrêter. Et sa seule arrestation de la série va être à un moment où il va décider de lui-même de se rendre au FBI. Donc en fait, il va combattre de façon extrêmement violente Jack quand Jack va venir pour tenter de l'arrêter et il va l'enfermer de façon finalement assez drôle dans un placard. En fait, finalement, ce n'est pas comme le dit Sedgwick, l'interlocuteur qui a ou prétend avoir la compréhension la plus restreinte de la pratique interprétative qui définira les termes de l'échange. Le placard protège un secret, mais un secret qui est un pouvoir sur les autres. Brian Fuller, en fait, va vraiment redistribuer les cartes au profit d'un homme qui est dans le placard, face au regard même des spectateurs qui savent, eux, ce qui se passe et ce qui se joue de part et d'autre. Mais le showrunner va même plus loin. Alors là, j'utilise une citation de Sarah Ahmed dans son ouvrage « Queer Phénoménologie », je traduis, et elle dit « L'idée qu'il existe une orientation sexuelle ne postule pas que l'homosexualité et l'hétérosexualité sont dans une relation égalitaire. Plutôt, il est sous-entendu que c'est l'homosexuel qui a une orientation. L'hétérosexuel est supposé être neutre. L'émergence du terme « orientation sexuelle » coïncide avec la représentation de l'homosexuel comme de la personne qui dévie de ce qui est neutre. » En fait, ce qui est queer, c'est donc, pour Sarah Ahmed, ce qui dévie de la ligne droite normée. Mais dans Hannibal, aucune orientation sexuelle n'est jamais explicitement nommée. Il n'est jamais demandé au personnage, justement, de faire ces fameux coming out dont nous avons parlé juste avant, ou de dire quel est le genre de la personne qui les intéresse. Par exemple, dans la saison 3, le docteur Alana Bloom, qui était autrefois qu'avec des personnages masculins, et on n'aurait jamais pensé qu'elle puisse être intéressée par des femmes, va devenir la femme de Margot Verger, sans que personne dans la diégèse ne semble ni surpris ni étonné. De même, Hannibal est décrit vraiment comme pansexuel en interview, et lorsqu'un fan demande sur Twitter à Brian Fuller s'il existe un personnage ouvertement gay dans la série, Brian Fuller lui répond « Jimmy Price is openly gay. Jimmy Price est ouvertement gay. » En fait, Jimmy Price, c'est vraiment un personnage secondaire dans la série, mais membre du FBI, interprété par Scott Thompson, un acteur ouvertement, lui, homosexuel. Brian Fuller prouve en utilisant en fait Twitter cette incohérence qui est vue à lier à une hétérosexualité lue comme la norme. Ce n'est pas parce que Jimmy Price ne fait jamais mention d'un partenaire féminin. J'ai dépassé mon temps ? C'est pas parce que ce n'est pas parce que Jimmy Price ne dit jamais ouvertement au cours de la série qu'il a un partenaire ou qu'il est gay qu'il ne l'est pas forcément ouvertement. Il n'y a pas de, il y a jamais aucune norme dans le monde de Brian Fuller. Teresa de Lauretis, dans Théorie queer et culture populaire, explique que, et je la cite, la construction du genre est à la fois le produit et le processus de la représentation et de l'auto-représentation. Scott Thompson est ouvertement gay, ainsi que son personnage. Brian Fuller est lui aussi ouvertement homosexuel et crée une série avec vraiment une grande tonalité queer, et on pourrait en parler encore très longtemps. Ce projet, en fait revendiqué, va trouver une grande résonance du côté des publics. On peut voir déjà qu'ils se questionnent sur les identités sexuelles des personnages. Et pour expliciter cela plus en détail, je laisse la parole à Hélène.
Merci Déborah. Effectivement, moi je vais prendre le relais en passant de l'autre côté de l'écran du miroir et passer du côté de la réception de l'œuvre en m'inscrivant dans une traduction de Cultural et de Fan Studies. Alors, on vient juste de le voir avec Déborah, hein, Brian Fuller, il revendique explicitement, entre guillemets, une queerisation d'un matériau de départ qu'il s'est approprié. Les romans de Harris et ensuite les films qui sont antérieurs à la série. Fuller déclare d'ailleurs volontiers qu'il considère sa propre série comme une fanfiction, position intéressante qui traduit d'ores et déjà un brouillage des frontières entre la production et les réceptions des contenus médiatiques. Pardon, j'avais pas mis mon petit, voilà. Alors, je vous ai juste mis quelques petits termes de définition très succincts dans le domaine des fan studies. Alors, Hannibal version NBC, c'est elle-même une série qui est dotée d'un fandom, d'une communauté de fans extrêmement investis, les Fannibal, fandom dont un large pan s'attache à déployer et à expliciter le matériau queer offert par la série. L'un des ressorts de ce phénomène, qui n'est pas l'apanage évidemment de cette série-là, c'est la pratique de ce qu'on appelle le shipping, c'est-à-dire le fait d'apparier des personnages d'une fiction qui ne sont pas en couple dans le canon, dans la version officielle, dans la diégèse officielle. Et même si ce n'est pas un trait définitoire du shipping, ça concerne quand même très souvent des couples homosexuels, et notamment des couples d'hommes gays. Il y a eu ça dans Star Trek, je vais y revenir dans un instant. C'est très fréquent dans des fanfictions sur Harry Potter aussi, par exemple, où on met en couple Harry avec Drago Malfoy ou avec d'autres personnages masculins. Donc c'est quelque chose d'extrêmement répandu. Dans le fandom d'Hannibal, les récepteurs et réceptrices actives vont souvent se centrer sur le duo formé bien sûr par Will et par Hannibal, dont on vient de voir avec Déborah qu'il s'inscrivait dans un continuum glissant d'une homosocialité apparemment hétérosexuelle vers une autre forme d'amour et d'attirance avec un sous-texte homo-érotique et homo-romantique. Ce continuum, hein, c'est quelque chose qui rejoint un peu les travaux d'Eve Kosofsky-Sedgwick, mais je passe un petit peu rapidement là-dessus. Ici, le shipping, il est donc déjà fortement encouragé, on l'a vu, par le canon de la série elle-même. Les pratiques faniques qui en découlent, notamment via ce que Sébastien François appelle les créations dérivées, vont permettre aux fans d'exacerber cette dimension qui est en germe dans la série et dans les propos de Brian Fuller également, de la mettre complètement dans le domaine de l'explicite. Ce que je souhaite aborder dans ma partie de l'intervention, ce sont les enjeux revêtus par ces pratiques en termes de construction et de revendication identitaire ainsi que d'appartenance communautaire. Pour cela, je me suis livrée donc, tout récemment, en janvier 2019, à une étude qualitative en ligne à partir d'une recherche par mots-clés. Je vous mettrai rapidement le type de site et les quelques mots-clés que j'ai employés pour cette recherche sur un ensemble de réseaux sociaux et de sites de microblogging et d'autres plateformes comme fanfiction.net. L'une des activités faniques qui contribue traditionnellement à queeriser des contenus fictionnels, c'est l'écriture de fanfiction slash, ou on dit aussi yaoi, c'est-à-dire qui mettent en scène des relations homosexuelles entre deux personnages masculins. Cette pratique, elle est née à la fin des années 70, au sein du fandom de la série Star Trek, notamment autour du pairing du ship entre Kirk et Spock, que j'évoquais à l'instant. En la matière, on a ces deux ouvrages qui vont aborder cette question des fanfictions slash dans Star Trek, hein, de chercheurs et chercheuses comme Camille Bacon-Smith et Henry Jenkins, qui vont nous expliquer l'un et l'autre que la rédaction de ces récits érotiques était principalement féminine, comme la pratique de la fanfiction de manière générale. Et on peut s'interroger sur la raison pour laquelle des femmes, souvent hétérosexuelles, ont choisi d'écrire des textes autour de relations sentimentales et sexuelles entre hommes. En effet, ces œuvres sont dotées de personnages féminins, mais ces personnages féminins, ils sont sous-développés dans la fiction de base, dans le canon. On pourrait utiliser les fanfictions pour les développer davantage, mais souvent, les autrices de fanfiction vont préférer se concentrer sur des ships masculins homosexuels. Bacon Smith comme Jenkins ont mis en exergue le fait qu'il s'agissait pour ces autrices d'imaginer des rapports entre deux personnes qui soient dépouillées de la hiérarchie homme-femme inhérente à l'hétérosexualité et de s'identifier simultanément à deux personnages qui sont sur un parfait pied d'égalité. Ces fanfictions sont en outre des lieux d'exploration d'une masculinité qui est différente de la masculinité hégémonique. Hein. On va être plus dans une masculinité marginale, pour reprendre la typologie de Rewyn Connell, et en dehors du système de domination patriarcale, ainsi que d'une mise en valeur de l'androgynie. On a une mise en valeur de l'androgynie, et les personnages vont avoir à la fois des traits définitoires féminins et masculins dans ces fanfictions. Il s'agit, pour le dire comme Lorraine de Gand, d'une, je cite, « une exploration des marges des textes ou des genres codifiés à travers l'expression d'une sexualité non-binaire ». Donc ici, dans Hannibal, on a évidemment de nombreuses fanfictions qui vont, pour beaucoup, entrer dans la sous-catégorie slash. Si on va sur la plateforme fanfiction.net, il y a à peu près 3000 fanfictions répertoriées sous le mot-clé Hannibal. Et si on ajoute à ce mot-clé le mot-clé de slash, là, on en a à peu près une centaine. Donc on voit que c'est une partie des textes qui sont associés à la série. Et ça va aller de la petite histoire mignonne où Hannibal propose un petit massage relaxant à Will pour le détendre, à des choses beaucoup plus introspectives ou à des cheminements vers la découverte de sa propre homosexualité. Conjointement aux fanfictions, les Hannibal se livrent à des productions de fanart. Le fanart, c'est tout un ensemble de productions graphiques, visuelles, dessins, peintures, montages, bandes dessinées... et j'en passe. Et donc, ces œuvres, elles vont émailler la toile et offrir aussi un vaste champ exploratoire concernant la relation homoérotique entre Hannibal et Will. Elles permettent normalement, notamment un travail sur le corps des personnages, sur leur union, sur l'idée d'androgynie encore, avec des styles très différents. On le voit dans les exemples que je vous ai mis là. Alors, certaines vont se situer complètement dans le registre du mignon, du cute, avec toujours des styles différents, hein. C'est assez amusant, intéressant à voir. Et puis, on va avoir toute une partie un peu plus explicite, un peu plus intense. Je vous en ai mis quelques exemples également, on n'est plus tout à fait dans le même registre. Et puis, on est quand même dans une série horrifique, avec beaucoup de violence, et les fanfictions vont, dans l'exploration de la relation homoérotique des deux personnages, aussi pouvoir jouer sur des questions un peu de tough love, vous savez, d'amour vache, voire de fantasme BDSM. Alors, j'ai pas énormément de temps, donc je vais passer un petit peu vite sur les autres productions fanartistiques qui peuvent être réalisées, mais il y a tout un tas d'autres choses, des objets, des bijoux. J'ai le temps. Oui, non, mais j'ai pas. Du coup, j'avais anticipé. J'ai encore des choses à vous dire après. J'en suis pas à ma conclusion. Je passe sous silence le fait qu'on puisse acheter des bijoux, des petits objets créatifs, des mugs, ce genre de choses. Vous allez sur Etsy, vous en trouvez plein qui vont mettre en avant le ship Will Hannibal. Alors, si l'examen de ces productions met l'accent sur le goût prononcé des Hannibal pour la dimension queer de la série, ces créations dérivées ne sont pas suffisantes pour préjuger de l'identité de leurs auteurs et autrices. Hein, c'est en ligne, donc il y a des pseudos, il y a des images qui sont reprises, copiées, collées, diffusées, on ne sait pas forcément qui en est à l'origine, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Richard Jenkins, c'est l'acteur de Six Feet Under. Henry Jenkins explique qu'un fandom constitue un espace dans le... Je reste dans le thème en même temps. Un espace dans lequel les individus peuvent articuler leurs préoccupations relatives à la sexualité, au genre, au racisme. Donc les activités faniques, ce sont ce que Mélanie Bourda appelle des tactiques de réception qui permettent de s'approprier des œuvres en fonction de son identité propre, notamment pour des personnes qui font l'expérience de la minorité sur l'échiquier social. En l'occurrence, on l'a vu avec l'exemple de Star Trek tout à l'heure, le slash, c'est massivement produit, en tout cas pour Star Trek, des œuvres comme ça, par des femmes hétérosexuelles et non par des hommes gays qui essaieraient d'adapter une série qui ne les représente pas au départ. Ici se pose la question de savoir s'il en va de même pour les Hannibal. Alors, les enquêtes ethnographiques que j'ai menées récemment rencontrent sur ce point un écueil, je vous le disais, parce qu'on ne peut pas forcément identifier l'auctorialité des œuvres. Malgré tout, il y a quand même des indices quant à ce que Nawel Chaouni appelle l'identité déclarative des internautes concernés qui se revendiquent d'être des Hannibal et qui vont diffuser, créer ou faire circuler ces œuvres. Avec des petits indices dans la présentation de soi, hein, pour reprendre le terme de Goffman, qui vont traduire une appartenance à des identités et des communautés LGBT et queer. Alors ça passe par, on a notamment des arcs-en-ciel qui renvoient au drapeau LGBTQ plus ou moins marqué, par exemple un Fanny Ball qui montre son sapin de Noël gay. Ça va être dans les petites descriptions de profils sur Twitter où la personne va se définir comme bi, pan, trans, etc. Ou avoir, sur Instagram, on a une personne dont le pseudo est « hetero doesn't exist ». Donc ce genre d'indices qui vont quand même montrer qu'on a une communauté queer, LGBTQ, dans le fandom d'Hannibal. Ce réseau de fans, ce fandom, va se caractériser par sa grande bienveillance, sa solidarité et par la tendresse qui unit ses membres. Vont l'attester des hashtags comme Fannyball Family, qui traduit la force des liens tissés au sein du fandom. Les contenus qui sont relayés autour de ce hashtag vont eux-mêmes mettre au jour le caractère presque salutaire de telle relation. Pardon, je crois que j'ai sauter un tout petit passage, juste avant. Je voulais vous montrer qu'il y avait des sociabilités queer qui se nouaient au sein du fandom avec des rassemblements pour parler de représentation queer, faire des ateliers d'écriture homo-érotique, ce genre de choses. On a en même temps de la bienveillance, je le disais, donc avec des incitations à se faire des câlins virtuels entre fans queer, ou une personne qui dit à quel point le fandom est une bénédiction, lui a apporté un amour et un soutien qu'il ou elle ne trouvait nulle part ailleurs. Donc c'est un support émotionnel entre ses fans. Et puis ça peut être quelque chose de presque salvateur, salutaire en tout cas. Là, par exemple, on a une fan transgenre qui dit que grâce au Fannyball, elle a pu vendre certaines de ses créations artistiques et que ça l'aide à payer ses factures médicales. Donc là, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus intense que juste le fait de regarder et partager l'amour d'une série. Il y a des sociabilités et des liens très forts qui se nouent autour de ça. La particularité de ce fandom-là, on l'a vu avec Déborah, c'est que Brian Fuller lui-même, le showrunner, il revendique sa série comme quelque chose de queer. Et donc, il va établir une connivence avec son public. Là, par exemple, je ne sais pas si on le voit sur le PowerPoint, c'est lui-même sur Twitter, puisqu'il utilise beaucoup Twitter, qui poste une photo de lui avec un mug dans l'esprit Starbucks, sauf que le mug, c'est Will et Hannibal qui s'embrassent avec écrit « My ship is canon ». Donc, vous avez tout à fait raison de dire qu'Hannibal et Will sont en couple. Moi, je valide le fait que c'est le cas dans ma série. Et puis, voilà, il fait des commentaires. Alors, c'était pendant la diffusion en live d'un épisode où il dit « Will est couvert par les fluides corporels d'Hannibal » avec un hashtag « Gay Agenda ». Donc, il s'amuse beaucoup de ses références au queer dans sa série. Et puis, ça ne s'arrête pas là, puisque les Fannyball eux-mêmes sont très friands de ça, vont rebondir dessus et vont finalement s'approprier les déclarations de Fuller, notamment sur Twitter, et puis les intégrer à leur propre création et circulation d'images autour du queer dans la série, dans l'œuvre et dans le fandom. Je vais conclure rapidement. Donc on voit que c'est une série qui se distingue par l'attention érotique qui n'est pas du queerbaiting. On n'est pas dans ce que nous fait Stephen Moffat avec Sherlock et Watson, par exemple, sur la BBC. Là, la relation queer, elle a été déclarée canon. Elle est explicitée par le showrunner lui-même. Et ça se traduit à la fois par les choix formels qu'il fait dans la série, les cadrages, le montage, le gay-gaze dont parlait Déborah, et puis les déclarations qu'il va faire dans les paratextes, en interview, sur les réseaux sociaux, etc. Le fandom, du coup, s'est emparé de ce potentiel queer pour le déployer. On est dans ce que Jenkins appelle la culture de la convergence, et on voit qu'il y a au sein de ce fandom un véritable sentiment d'appartenance communautaire fondé conjointement sur la passion pour un même objet culturel, et sur des identités de genre et des orientations sexuelles. Et ce qui est sous-tendu, c'est un besoin de représentation et de reconnaissance sociale. Et dans l'un des tweets que je vous montrais précédemment, on a la personne qui est très reconnaissante et qui dit à quel point cette série permet aux identités LGBTQ d'être normalisées et acceptées dans la société. Donc on est en plein dans le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Alors bien sûr, on pourrait être un petit peu cynique et se questionner, tout gay qu'il soit, sur la sincérité de Brian Fuller, puisqu'il y a quand même des enjeux économiques derrière qui sont évidents. Alors pour citer David Perron, qui travaille sur la prescription culturelle par les fans. David nous dit, pour les créateurs d'œuvres et d'univers fictionnels, il s'agit aussi de se construire une image de sincérité et d'authenticité. Cette construction passe par la communication, le positionnement des auteurs et l'intégration des pratiques de fans, autant d'éléments qui peuvent être considérés comme une forme d'instrumentalisation et de contrôle. Bien sûr qu'on peut se poser cette question-là, d'autant que Fuller, il n'a pas forcément la réputation d'être un tendre sur les tournages, d'être une personnalité aussi sympa qu'il le donne à penser. Mais in fine, même si c'est le cas, le fandom queer d'Hannibal, ça va rester un lieu de partage, un lieu de bienveillance, un lieu d'épanouissement pour des personnes qui font l'expérience de la minorité, qui ont besoin de ça. Et ça, évidemment, je le lis à la question de la normatisation des identités LGBTQ.